Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. C'est le principe de réalité. Alors que le gouvernement suédois avait aboli le service militaire en 2010, il a annoncé son rétablissement pour le 1er janvier 2018. La peur de la Russie, mais aussi les difficultés à organiser une vraie armée de métier ont motivé ce choix. À Stockholm, Benoît Derrier est allé rencontrer les principaux intéressés, les jeunes, pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette réforme.
À la sortie d'un lycée de Stockholm, il ne faut pas chercher bien longtemps pour trouver des jeunes qui approuvent le retour du service militaire. Isaac et Victor, 18 ans tous les deux, partagent le même avis sur le sujet.
C'est bien, cela permet aux jeunes d'être utiles à la société. Oui, je pense aussi que c'est bien. C'est une école de discipline en quelque sorte. Et puis si quelque chose devait arriver, davantage de gens seraient prêts à y faire face, en cas d'invasion russe par exemple. On y pense souvent, il y a toujours cette rivalité séculaire entre la Suède et la Russie, blague à part. Et puis les Russes ont toujours convoité l'île de Gotland au milieu de la Baltique, alors on ne sait jamais.
Il y a parfois des avions militaires russes qui survolent les eaux territoriales suédoises. Alors les gens sont un peu inquiets. Enfin, ce n'est pas un gros débat, la Suède est quand même un pays libre.
Le grand voisin russe, avec lequel la Suède s'est longtemps disputé la Finlande, est en effet toujours perçu comme une menace. Et c'est précisément le contexte géopolitique qui est à l'origine de la décision suédoise de rétablir le service militaire. Maria Lemne est experte sur les questions de défense et de politique internationale à l'Université de Stockholm.
Il y a deux principales raisons au retour du service militaire. D'abord, l'invasion russe en Crimée. Mais je ne pense pas que ce soit la raison principale au retour de la conscription. Il y a quelques années, lorsque la Suède l'a supprimée pour une armée de métier, les recrues n'étaient pas en nombre suffisant et la plupart d'entre elles ne restaient que quelques années dans l'armée. C'est l'échec de ce système qui contraint aujourd'hui la Suède à réintroduire le service militaire.
En 2016, il manquait en effet à la Suède 1 000 000 de soldats et 7 000 réservistes. Il faut dire que dans un pays n'ayant pas connu de guerre sur son territoire depuis 200 ans, un record mondial, embrasser une carrière militaire ne vient pas forcément à l'esprit des jeunes Suédois, malgré des campagnes publicitaires assez créatives.
We can't offer you ridiculously dramatic music playing in the background. Or even my cool American voice.
Men vi kan erbjuda er vår verklighet. En utbildning som leder till ett jobb. Där du kan göra skillnad. På riktigt.
Le nouveau service militaire concernera 4 000 jeunes nés en 1999, mais les autorités n'ont pas précisé le mode de sélection retenu, un flou qui suscite une certaine inquiétude. Amanda, 18 ans.
Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir renforcer les défenses de son pays, surtout dans un monde qui devient de moins en moins sûr.
Elias, 16 ans.
Je pense que cela peut gêner les études si l'on doit faire son service militaire au lieu d'aller directement à l'université. D'un autre côté, on apprend aussi de nouvelles choses.
Saga, 16 ans.
Si l'on sait ce que l'on veut faire, être interrompu par le service militaire peut être gênant, mais je pense que beaucoup de jeunes sont un peu perdus à la sortie du lycée, et alors je pense que c'est une bonne chose qu'ils puissent rencontrer d'autres jeunes et travailler ensemble sur quelque chose. Je ne suis pas sûre d'être moi-même intéressée, alors je pense que ce serait une bonne chose si c'était sur une base de volontariat. Moi, je suis plutôt pacifiste, donc pas forcément en faveur du service militaire.
Les jeunes Suédois sont nombreux à s'opposer à ce que le service militaire soit obligatoire. Mais un sondage réalisé en septembre 2016 a révélé que les deux tiers de la population du pays y étaient favorables.
On savait que le Brexit allait être un casse-tête. Il sera activé le 29 mars prochain, mais c'était sans compter avec toutes les velléités indépendantistes des nations qui composent le Royaume-Uni. Après l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord voudraient profiter de ce divorce annoncé avec Bruxelles pour prendre le large à avec Londres. Les explications de Marie Billon.
C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Mais dans ce nouveau bras de fer qui s'engage avec Londres, tout le monde n'a pas les mêmes moyens de pression que l'Écosse. Tout d'abord, au Pays de Galles. Ici, la volonté d'indépendance n'est pas très forte. Le parti nationaliste Plaid Cymru n'a pas la majorité au Sénat, le Parlement régional, et les sondages d'opinion ne sont pas plus encourageants, pas plus de 30% pour l'indépendance. Le Pays de Galles se sent pourtant souvent comme le parent pauvre du Royaume-Uni. C'est la seule des quatre nations à ne pas être représentée dans l'Union. Union Jack, le drapeau britannique, mais il est vrai que sa situation économique ne lui permet pas d'avoir des rêves d'indépendance. Et enfin, l'excuse du Brexit ne tient pas. La nation a voté pour sortir de l'UE à 52%. Ce n'est pas le cas de l'Irlande du Nord. Près de 56% des Nord-Irlandais ont voté pour rester au sein de l'UE. La perspective d'une nouvelle frontière étanche, une frontière extérieure de l'UE, accentuant encore la division de l'île, rappelle de très mauvais souvenirs tant à Belfast qu'à Dublin. Et le parti républicain et pro-européen, le Sinn Féin, ancien bras politique de l'IRA, a le vent en poupe en ce moment. Fin janvier, son leader historique, Martin McGuinness, a démissionné de son poste de vice-premier ministre et de chef du parti en Irlande du Nord. Michelle O'Neill, 40 ans, l'a remplacé à la tête de la formation politique. Représentante d'une nouvelle génération, elle est le visage moderne et lisse du républicanisme irlandais. Et déjà, son parti a connu un joli succès électoral lors des élections régionales anticipées de mars. Il n'a plus qu'un siège de moins que le DUP, parti pro-Brexit. Theresa May a déjà dit que l'heure n'est pas venue pour tenir une consultation comme l'a demandé le Sinn Féin. Pour l'instant, les Irlandais du Nord préfèrent rester au sein du Royaume-Uni, mais l'opinion pourrait évoluer en fonction des négociations sur le Brexit.
À Rome, ce 25 mars, se signait donc un accord historique. Première étape d'un projet qui se voulait plus ambitieux, de fédération politique des États européens, les États-Unis d'Europe.
Les États-Unis d'Europe, qu'elle nous semble loin aujourd'hui, cette vision de l'Europe qui a présidé au traité de Rome, dont on célèbre les 60 ans cette semaine. La chaîne de télévision franco-allemande ne pouvait rater l'anniversaire. Dans les coulisses du traité de Rome, 1950-1957, est un documentaire fiction très rythmé. Catherine Roland a interviewé le réalisateur Martin Fraudreau et l'auteur Grégoire Pollet.
Soit les puissances européennes au sortir de la Deuxième Guerre mondiale se contentaient d'un destin de satellite, soit au contraire ils mutualisaient le peu de pouvoir qui leur restait, le peu de puissance. Ils les mutualisaient et ils en faisaient un ensemble qui pourrait se dresser à l'intérieur d'un monde bipolaire, disons, dresser une troisième voie. Leur intention était de faire quelque chose qui ressemblerait aux États-Unis d'Europe, c'est-à-dire un projet politique. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe finalement s'est construite uniquement sur l'idée d'un marché commun, et que c'était une Europe des marchands, une Europe commerciale. Et ce qui est intéressant, c'est de remonter aux origines. L'idée, c'était en fait une Europe politique. Et c'est parce que cette idée politique a échoué qu'ils se sont rabattus finalement sur une Europe du marché commun, une Europe de l'union douanière, en espérant, disons, que petit à petit, on y arriverait quand même à cette Europe politique.
On comprend bien combien l'idée du français Jean Monnet est menée en fait à bout de bras par un Belge, par le ministre Paul-Henri Spaak, qui a un rôle finalement assez méconnu.
Oui, alors ça c'est un personnage très intéressant, Spaak, parce que c'est aussi un des seuls hommes politiques qui est là du début à la fin du processus. Dans le film, du coup, il devient presque le fil rouge. Le gros enjeu de la construction européenne, c'était la France et l'Allemagne. Mais pour cette raison même, ce n'était ni la France ni l'Allemagne qui pouvaient vraiment mener le bateau. Il fallait donc que ce soit un petit pays qui le fasse et qui agisse, disons, d'une façon à la fois intelligente et diplomatique. C'est une des particularités de l'histoire de l'Europe d'être assez méconnue. Pourquoi ? Parce que comme ce n'est l'histoire nationale de personne, elle n'a pas été mise en récit. Et donc, je pense que ce film est peut-être la première tentative de faire un récit de cette histoire-là.
Oui, on découvre d'ailleurs un négociateur né, plutôt rond, mais qui croit jusqu'au bout, hein, malgré les embûches, malgré les Anglais qui claquent la porte, malgré la France qui n'arrête pas de faire des allers-retours et qui a des exigences incroyables.
Oui, alors Monnet est vraiment l'homme des coulisses, l'homme qui était derrière, c'est lui qui inspirait à Spaak les idées. Mais Spaak était un homme politique et donc un homme d'action, et lui, il pouvait faire valoir ses idées. Et donc Spaak, effectivement, est quelqu'un qui y a cru tout le temps, qui a même pris des risques considérables, puisqu'au moment où vraiment on s'aperçoit qu'il n'y aura pas moyen de réussir cette histoire, il prend le pari un peu fou. Là, on va prendre deux, trois personnes demandent seulement à faire un document, et c'est ce document qu'on présentera à tout le monde, plutôt que d'essayer de se mettre d'accord tous dès le départ. Spaak disait d'ailleurs très très intelligemment, et ça vaut encore pour notre Europe d'aujourd'hui, quand la volonté politique, disons, ouvre une voie, cette voie commence à se frayer naturellement. Et c'est assez frappant. Aujourd'hui, quand on voit les impasses dans lesquelles on se trouve, on se dit, c'est parce qu'on peut pas se mettre d'accord. Effectivement, on peut pas se mettre d'accord à l'avance. En revanche, la volonté politique est celle qui rend les accords possibles, même les accords les plus impossibles. La poignée de main entre Adenauer et Guy Mollet, qui est vers la fin du film, et qui est le tout début du couple franco-allemand, est une poignée de main qui était théoriquement impossible, puisque ça exigeait qu'Adenauer accepte l'exception française pour la bombe atomique. Et c'est seulement justement par cette volonté politique que finalement, une décision peut faire plier la réalité.
Une décision et un rapport qui a été en partie rédigé par un économiste français méconnu là aussi, hein, Pierre Uri, et un rapport qui comprend en fait la vision futuriste de l'Europe.
En fait, c'est vraiment une idée visionnaire. C'est l'idée, justement, d'une Europe qui aurait mutualisé son pouvoir sur les éléments essentiels, notamment celui de la défense. Comme ça, on aura une défense autonome. On ne sera pas entièrement soumis, par exemple, à l'OTAN. C'est une idée qui revient maintenant. Elle a été diabolisée pendant des décennies. Et puis, depuis 6 mois, elle est redevenue sexiste. Assez extraordinaire.
Ouais, 60 ans après.
60 ans après, rien de moins. Et effectivement, on voit que toutes les idées y étaient. Et alors, il y a un personnage qui dit, dans le film, mais il le disait aussi dans la réalité, sans le bord du gouffre, on ne prendra jamais ces décisions-là. Et donc, cette idée d'armée européenne qui n'avait pas pu se faire, viendra peut-être se faire maintenant que, effectivement, la pression, notamment pour la défense européenne et les questions de sécurité en général, devient de plus en plus grave.
Martin Fraudreau, le documentaire est presque un thriller. Il y a toute cette pression internationale. On est au bord du conflit avec l'Union soviétique qui fait intervenir ses chars à Budapest. Il y a la crise du canal de Suez, effectivement, où les Français, les Anglais sont désavoués par les Américains. Et vous avez construit ça comme un suspense.
On est lié à non seulement effectivement à une chronologie, mais dans cette chronologie, on retient les éléments qui sont les éléments clés et on en joue évidemment dans l'écriture du film. Après, il y a des choses qui se dégagent aussi en arrière-plan, c'est-à-dire qu'on sent que ces gens qui sont là ont quand même une vision, c'est-à-dire malgré les antagonismes, malgré les péripéties, il y a une vision du futur. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui est la mondialisation, qui est très très vite présent et qui va bien au-delà du marché commun, puisque il y a une volonté d'harmoniser les lois fiscales, les lois sociales, etc. C'est déjà sur la table. Ça passe à la trappe en partie. Mais je dirais que ce qui est intéressant, c'était aussi de faire sentir que ces hommes avaient, au-delà des péripéties, jour après jour, ou mois, ou année après année, avaient une sensibilité et un désir de se projeter plus loin.
Et ce docu-fiction est à voir mardi soir sur Arte.
Crucen Plaza Mayor. Sigan todo recto hasta Puerta del Sol, Sol, Sol. Crucen.
La démocratie directe et locale, la municipalité de Madrid l'a fait, la maire de la capitale, Manuela Carmena, icône de gauche, proche de Podemos, a organisé un vaste référendum local sur les grands aménagements de la ville. Mais quel prix est-on prêt à payer pour la participation citoyenne à Madrid, François Musso?
Remodeler entièrement la place d'Espagne, un legs franquiste avec ses imposants buildings en espaces verts et arborés, agrandir les trottoirs de la Grande Via, l'artère emblématique de la capitale, au détriment des milliers de voitures qui y transitent chaque jour, déclarer Madrid ville qui fait le pari des énergies soutenables et qui veut lutter contre la spéculation immobilière, promouvoir le billet unique, c'est-à-dire la possibilité avec le même ticket d'utiliser le métro et le bus, ce sont toutes ces questions que la mairie de Madrid a soumises à la population. Résultat, 212 000 personnes qui ont participé et qui ont répondu favorablement dans une très forte proportion. Un immense succès, acclamé Pablo Soto, responsable à la mairie de la participation citoyenne. Les gens pouvaient voter dans des édifices publics, par internet ou par courrier postal. Au total, l'initiative a coûté 1,1 million d'euros. Un scandale pour l'opposition municipale ou une exagération? À la mairie, on rétorque que cet argent, je cite, correspond à seulement 0,02% du budget municipal, c'est-à-dire une broutille. Sur le fond, la question est de savoir si ce genre de référendum a ou non une raison d'être. Dans le camp adverse, les conservateurs et les centristes libéraux, cela n'a pas de sens dans la mesure où, selon ceux-ci, l'équipe municipale peut faire ce qu'elle veut dès lors qu'elle a été élue pour appliquer un programme. Du côté municipal, au contraire, du côté de la maire Manuela Carmena et de ses alliés de la gauche radicale de Podemos, Cela s'inscrit dans une cohérence, celle de consulter les citoyens sur des questions stratégiques qui vont affecter leur vie quotidienne, une manière, dit Manuela Carmena, la maire, de rapprocher les gens de la politique.
Connaît le Birobidjan aux frontières de l'Europe, dans l'extrême-orient russe. Cette région est autonome, a été créée par Staline dans les années 30 pour les juifs du RSS qu'on voulait reléguer à la périphérie de l'Empire. Des milliers de juifs s'y sont installés avant la création d'Israël. Que reste-t-il aujourd'hui de ce passé? C'est le reportage dans la ville de Birobidjan d'Étienne Bouche.
En descendant du train, le visiteur découvre un chandelier à sept branches. Sur la façade de la gare, le nom de la ville est écrit en russe et en yiddish. Les rues sont aussi indiquées dans les deux langues. Pour le reste, Birobidjan ressemble à une ville de province russe ordinaire. Les descendants des pionniers juifs, venus s'installer ici sous Staline, ne sont plus qu'une infime minorité. Le Birobidjaner Stern a été contraint d'en tenir compte. Créé en 1930, le journal historique de la région a dû s'adapter à l'évolution du lectorat. Elena Sarachevskaya, la rédactrice en chef.
Pendant très longtemps, le journal a été publié uniquement en yiddish. Et dans les années 90, quand beaucoup sont partis en Israël, nous avons perdu de très nombreux lecteurs, ceux qui comprenaient le yiddish. La rédaction a alors pris la décision de devenir bilingue, pour toucher à la fois ceux qui lisent le russe et ceux qui lisent le yiddish.
L'unique page en yiddish est destinée aux plus anciens. La région est largement russifiée et dans les faits, le yiddish n'a presque plus de locuteurs. Les juifs ont commencé à quitter le Birobidjan à la mort de Staline en 1953. La création d'Israël n'avait que quelques années. Plus tard, c'est la chute du communisme qui a entraîné une autre vague massive d'émigration, principalement vers Israël et les États-Unis. Durant la dernière décennie, la ville s'est embellie de monuments rendant hommage à cette culture juive. Et surtout, une synagogue a été construite rue Sholem Aleichem, écrivain de langue yiddish né près de Kiev. Juste à côté, il y a un centre culturel juif. En URSS, les religions étaient étouffées. Désormais, la communauté veut renouer avec ses origines. Mais à la synagogue, les fidèles ne se bousculent pas. Eli, c'est le rabbin arrivé il y a 5 ans. Il appartient au mouvement Chabad qui se donne pour mission de ramener vers la religion les Russes d'origine juive. Il est né ici il y a 26 ans. Il a émigré en Israël avec sa famille, est ensuite parti étudier à Moscou et à New York. Une fois diplômé, il a décidé de revenir ici. Un choix étonnant qu'il explique par
la folie. J'ai toujours ce rêve, sans doute naïf, de faire ce qui devrait être fait à Birobidjan, faire en sorte qu'il y ait une vie juive avec sa jeunesse, avec un restaurant cachère. Il y en aura bientôt un, des magasins avec de l'alimentation cachère, que la région autonome juive n'ait pas de juifs, que le nom, et grâce à Dieu, cela fonctionne.
Le jeune rabbin manifeste un enthousiasme déroutant. Il explique sa démarche en ces termes. Un juif doit pouvoir vivre comme un juif où qu'il se trouve. Sa mission, c'est de les accompagner tous jusqu'au dernier. Albina Sergeyeva dirige le Centre de culture juive pour la jeunesse. Elle se réjouit de pouvoir enseigner histoire et tradition à la nouvelle génération. Mais elle ne se voile pas la face. Même si elle s'en félicite, la majorité des inscrits sont des Russes curieux de découvrir la culture juive.
Il paraît clair que l'on ne fera plus du Birobidjan une bourgade juive. Mais en faire un territoire où les nationalités vivent en bonne entente, comme c'est le cas aujourd'hui, cela paraît tout à fait envisageable. Et nous croyons en cela.
Albina est née ici, ses enfants aussi. Pour elle, pas de raison de rentrer en Ukraine, la terre de ses grands-parents. Comme les autres, elle assure qu'il y a des retours d'émigration ces dernières années. Mais bien souvent, la dimension affective ne suffit pas à motiver un retour. Car au-delà de la question religieuse, c'est bien la situation économique qui préoccupe Birobidjan, la région la plus touchée par le chômage en Extrême-Orient.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe. Dans quelques instants sur RFI, un nouveau point sur l'actualité internationale. Restez à notre écoute.